France Culture.
De l'histoire. Xavier Mauduit.
En juillet 1902, Vogesia choisit la destination de sa prochaine excursion. C'est le Struthof, c'est une fanfare, c'est là que les musiciens vont jouer, c'est là où ils vont répéter leurs morceaux. En novembre 1921, la commission des excursions et des sports d'hiver du club vosgien se réunit afin d'évoquer la question du Struthof. Est-ce que c'est le lieu choisi pour y installer une piste de luge ? En 1941, c'est le lieu choisi par les nazis pour installer un camp de concentration dans l'Alsace, alors annexé. Nilsweiler, Struthof, archéologie d'un camp.
Les nazis avaient une sorte de génie de l'extermination. Et ils plaçaient toujours leur camp de concentration dans les paysages les plus magnifiques. Celui du Struthof s'inscrit à 800 mètres d'altitude dans un cirque magnifique des Vosges, en face de cette montagne du Donon, qui était un lieu sacré pour les Celtes.
Le cours de l'histoire.
Nous venons d'entendre Jacques Garnier, un journaliste des Dernières Nouvelles d'Alsace en 1970. Bonjour, Juliette Branger.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, responsable d'opérations de fouilles sur le camp du Struthof et vous réalisez une thèse. Je peux donner son nom ?
Oui, pas de souci.
La place des camps de concentration dans l'économie de guerre allemande entre 1939 et 1945. Comparaison entre deux camps. Quels sont ces deux camps ?
Ces deux camps, c'est celui Nilsweiler Struthof dont on vient d'entendre parler, donc en Alsace. Et le deuxième, c'est celui de Flossenbürg en Bavière. Et les deux se ressemblent parce qu'ils sont tous les deux situés en moyenne montagne à 800 mètres d'altitude.
Qui dirige ces travaux ?
C'est Alexandre Zumpf qui est prof à la fac de Strasbourg.
Dans ces deux camps, on l'évoque, hein, l'Alsace, la Bavière. Mais puisque nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en Allemagne dans les deux cas à ce moment-là. Hein.
Oui, c'est ça. On est sur le territoire annexé dans les deux cas. Et on est assez proche quand même de la frontière. On est dans les Vosges, donc on est à la limite du territoire annexé. Et on l'entendait dans l'extrait des DNA. C'est vrai qu'il est assez particulier ce camp parce qu'il est situé en moyenne montagne et qu'on est dans un paysage qui était un endroit de randonnée pour faire de la luge, pour faire du ski avant-guerre, donc un espace totalement touristique et qui devient ensuite camp de concentration.
DNA, les Dernières Nouvelles d'Alsace, ça ressemble à quoi cette région, ce paysage autour de ce camp ?
Bah, c'est un paysage qui est complètement montagneux et donc quand on est au niveau du camp, donc dans l'espace où étaient enfermés les déportés, on a la vue sur le Donon qui était cité dans le reportage des Dernières Nouvelles d'Alsace. Donc on est plutôt sur un paysage de vacances en montagne et c'est là où il y a tout le contraste entre quand on visite le camp, entre ces baraques qui sont installées sur des terrasses artificielles qui ont été créées par les déportés et autour le paysage qui fait plutôt paysage de vacances.
Oui, ce sont des forêts là-bas.
Beaucoup, oui, c'est hein. Ça. Ouais. Alors, pendant la période du camp, c'était pas de la forêt parce que avant-guerre, donc, on a un espace touristique, mais c'est aussi surtout un espace agricole où c'est complètement ouvert, donc des espaces de pâturage pour des vaches. Et donc, il n'y avait pas tous ces sapins qu'on a actuellement. Il faudrait s'imaginer l'espace actuel, mais sans toute la forêt et donc avec beaucoup plus de visibilité entre les différents endroits. Et actuellement, oui, on est au milieu de la forêt, notamment dans l'espace où on mène le chantier de fouilles, on est complètement au milieu de la forêt.
Oui, c'est pas du tout un espace isolé au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire les années 1940, parce qu'il y a des loisirs, il y a de la randonnée, il y a la piste de luge. C'est un endroit connu. Pourquoi les nazis ont-ils choisi ce lieu pour y installer un camp ?
Alors, ça commence déjà à l'hiver 1940 avec une prospection géologique menée par un SS qui s'appelle Karl Blomberg, donc qui est dans la SS mais qui a pour profession, il est géologue en fait. Et il va venir en septembre 1940 dans la vallée de la Bruche, à Natzwiller, donc là où s'installera le camp, mener une prospection géologique. Il va réquisitionner des civils dans la vallée, donc des personnes qui ne travaillaient plus ou qui ont des professions de carrière, en lien avec avec des métiers en lien avec des carrières, et il va leur faire des sondages un peu partout dans la montagne, enlever la terre comme ce que font les archéologues pour découvrir la roche et voir si ce rocher qui est du granit rose, est-ce qu'il est exploitable ou pas. Et c'est cette prospection géologique qui va donner lieu à un compte-rendu fait par ce SS Karl Blomberg qui va conditionner la création du camp parce que la SS va vouloir exploiter ce granit rose et pour l'exploiter ramener de la main-d'œuvre, donc des déportés.
du granit rose. Quand on est en période de guerre, on n'imagine pas à quoi peut être utile le granit rose, parce que comme arme, bon, ça peut être redoutable le granit, mais enfin, ils veulent en faire quoi les nazis?
Ah oui, alors c'est au niveau armement, ça, c'est pas très utile. Ça s'inscrit complètement dans les programmes de construction de l'Allemagne nazie, de création de grands monuments, de réaménagement des villes, donc les plans en partie d'Albert Speer. Donc on peut citer notamment la construction des grands monuments à Nuremberg. Et dans ce cadre de la volonté de réaménagement des villes en Allemagne, la SS va créer ce qu'on appelle la DEST, c'est la Deutsches Erd- und Steinwerke, qui est une entreprise de la SS, qui a un peu son fonctionnement à part, et qui va s'installer en fait dans les camps de concentration pour pouvoir utiliser la main d'œuvre qui est disponible, donc les déportés, pour produire des blocs de granit ou d'autres types de pierres, des briques, plein de matériaux de construction qu'on va pouvoir ensuite redistribuer en Allemagne pour faire des aménagements.
Mais les travailleurs qui arrivent ici, ces déportés, ces esclaves des nazis, ne travaillent pas directement dans la carrière parce qu'il n'y a rien au début. Donc le premier travail, c'est de construire le camp.
Oui, c'est ça. Quand les déportés vont arriver en mai 1941 avec les premiers convois qui vont arriver de Sachsenhausen, convois qui sont composés presque exclusivement de déportés allemands, soviétiques et polonais. Donc ils vont arriver dans un espace que nous on appelle le camp bas, qui en fait sont les seuls bâtiments qui existent en 1941, c'est-à-dire la ferme auberge qui était là avant le camp, là où on avait les pistes de luge. Donc quand ils vont arriver, ils vont être logés dans ces seuls bâtiments qui existent déjà, et c'est à eux qu'on va demander de construire les premières baraques, les clôtures, l'ensemble des routes aussi, parce que on est toujours dans cette moyenne montagne qui servait juste d'espace touristique, donc il n'y a pas de réseau routier, en tout cas pas de quoi faire circuler des camions, il n'y a pas d'eau non plus, pas d'électricité. Donc en fait, ces premiers déportés, ils vont faire toute l'installation du camp, et c'est seulement plus tard qu'on va les emmener travailler à la carrière.
Avec ici l'aspect géographique qui est important pour ces grands camps que nous connaissons, ces centres de mise à mort comme Auschwitz, c'est la plaine. Là, vous avez étudié, Juliette Branger, des camps qui sont ceux de moyenne montagne. Donc il y a un défi, c'est lutter contre la pente.
C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué à aménager. Il faut créer des terrasses artificielles parce qu'on est au milieu de la pente. Donc il faut pouvoir se créer des espaces planes pour poser ces mêmes baraques qu'on retrouve à Auschwitz ou à Dachau. Mais il faut pouvoir créer un espace pour les construire. Et également, oui, tout l'aspect création des routes. Donc c'est créer des routes en montagne, pas dans la plaine. Donc il y a beaucoup de moyens humains qui sont demandés, de moyens techniques aussi. Et on va avoir à la fois des déportés, mais aussi des travailleurs civils qui vont se côtoyer pour ces travaux.
Il est construit rapidement, le camp ?
En fait, il n'est jamais totalement terminé. En 1944, quand il sera évacué en septembre, il est toujours en construction. On a toujours des bâtiments qui sont en train d'être aménagés. Donc en fait, finalement, on aura toujours des déportés qui seront affectés à des travaux de construction pendant toute la durée de vie du camp.
L'idée, c'est d'aller exploiter une carrière de granit rose. Mais le camp, lui, n'est pas construit en granit.
Non. Il n'est pas construit en granit, il est construit avec des dalles en béton et des baraques en bois, comme ce qu'on voit dans la plupart des camps de concentration. Il y a juste une partie du granit qui va être utilisée pour le camp, notamment pour les routes. Donc toutes les routes sont faites comme des routes gallo-romaines, en fait, ou des routes médiévales, avec des couches de granit, d'abord des gros blocs, puis des plus petits blocs, et enfin du sable. Donc là, on a une utilisation du granit de la carrière. Et un petit peu aussi dans les bétons. On va l'utiliser en concassé pour faire les dalles en béton, pour installer les baraques.
Et tout cela, évidemment, pour accueillir des déportés.
Nous avons été amenés jusqu'à la gare de Rotto. Et de là, des fourgons cellulaires nous ont amenés jusqu'à l'entrée du camp que vous voyez ici. Nous étions environ 50 détenus, dont la moitié étaient des jeunes Mosellans. Or, ce qui m'a frappé le plus, c'est le contraste existant entre la vie familiale, la vie que j'avais quittée, et cet univers. Nous avons été réceptionnés par le commandant Kramer, je crois, et nous avons subi ici, à l'entrée de ce camp, un interrogatoire. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est que les détenus de droit commun des Allemands n'ont pas été sanctionnés, n'ont pas reçu une correction, alors que nous autres, jeunes gens, qui voulions accomplir notre devoir de Français, nous avons eu une correction en public. C'était un crime aux yeux de l'occupant de se soustraire à la Wehrmacht et au STO. Et en arrivant ici, se trouvait aux portes de l'enfer, presque. Nous étions obligés d'abandonner notre nom. Nous recevions un matricule. Ici, j'étais le 6802.
Roger Frey, dans l'émission Alsace Panorama en 1970, ancien déporté au camp de Struthof. Juliette Branger, qui sont ces déportés ? C'est-à-dire là, français, mais il y en a d'autres ?
Oui, alors en fait, lui, qu'on vient d'entendre, il fait partie plutôt des convois qui vont arriver en 1943, des convois de Français Nartou-Nebel, donc suite au décret Nartou-Nebel de 1941.
Nuit et brouillard.
C'est ça, où on va vouloir enfermer les résistants, en fait, vouloir écraser la résistance, notamment française, mais aussi ailleurs dans d'autres pays européens. Et donc en fait, ces Français, ils vont arriver seulement en 1943 dans le camp. Mais avant, 1941-1942, c'est essentiellement plutôt des déportés polonais, soviétiques et allemands qui sont dans le camp. Et quand on regarde les statistiques totales, donc sur les 52 000 déportés qui vont passer soit par le camp principal de Netzweiler, soit par ses annexes, donc des petits camps qui vont dépendre de ce camp principal, les trois premières nationalités, ça va être en premier les Polonais, en deuxième les Soviétiques et en troisième les Français avec ces convois de 1943.
Oui. Il y a des prisonniers de droit commun aussi, des Allemands.
Oui, c'est ça. Des Allemands qui vont arriver, eux, plutôt dans les premiers convois qui viennent de Sachsenhausen en mai 41. Et donc, ces prisonniers de droit commun, c'est des Allemands qui étaient déjà en prison avant-guerre ou avant d'aller en camp de concentration et qui ont été jugés pour divers crimes et qu'on va mettre, transférer dans des camps de concentration. Et ils vont servir à la mise en place d'une sorte de hiérarchie, en fait, dans les camps. Ils vont souvent être capots. On va leur demander, en fait, de surveiller les autres déportés. Donc, ils vont permettre, en fait, la mise en place d'un système de surveillance où, en fait, les déportés s'auto-surveillent entre eux. Et on n'a pas besoin de tellement de gardiens que ça parce que les déportés vont, en fait, mettre en place une hiérarchie entre eux.
Avec le camp du Struthof, qui est en fait une expression erronée parce que c'est une pluralité de camps. Comment ça s'organise, cela ?
Alors, en fait, on a tendance à dire Struthof, en fait, c'est comme ça qu'on connaît, c'est le nom du camp pour le grand public, et même les historiens, les chercheurs, quand on parle, on a tendance à dire Struthof. Mais en fait, le camp de concentration, il s'appelle camp de Netzweiler, qui est le nom de la commune Netzweiler, le petit village qui était juste à côté du camp, et qui est traduit en allemand, donc Netzweiler. Pourquoi on l'appelle Struthof ? Parce que c'est un des noms de lieux-dits sur la montagne. Et c'est aussi le nom du camp d'après-guerre, parce que dès novembre 1944, alors que le camp il a à peine évacué de ses déportés depuis septembre, ça va devenir un autre espace de détention, mais mené par l'État français. Donc entre novembre 1944 et novembre 1945, on va enfermer dans ce même camp où étaient quelques semaines auparavant les déportés, des civils allemands. Donc ça va dans la politique française de la fin de la guerre, de repousser les civils allemands vers le territoire allemand. Donc on va les récupérer chez eux et essayer de les repousser vers le territoire allemand. Donc à la fois les femmes, des enfants, des personnes âgées. Et avec eux aussi enfermés, des collaborateurs, enfin des Alsaciens accusés de collaboration, mais qui n'ont pas encore été jugés.
Avec de multiples... Alors, petit camp, on parle beaucoup des commandos autour de ces camps, donc c'est exactement le cas ici.
Oui, c'est ça. Le camp de concentration de Netzweiler, c'est le camp principal, et autour de lui, il y a ce qu'on appelle des camps annexes qui dépendent en fait de ce camp principal. Souvent, c'est des endroits où il va y avoir des industries, où on va avoir besoin de main-d'œuvre, et donc on va envoyer des déportés pour travailler dans des industries, par exemple à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, où on va installer une usine dans un tunnel ferroviaire, ou à Thiel, en Meurthe-et-Moselle, où on va installer aussi une usine dans une ancienne galerie de mines. Donc souvent, ces petits camps qui dépendent de Netzweiler ont aussi un but économique et industriel.
Oui, parce que c'est bien ça, hein, cette politique d'appropriation, d'exploitation des richesses de la part des nazis, avec aujourd'hui dans le cours de l'histoire ce camp qui nous intéresse. Mais pour comprendre un élément de l'ensemble du système concentrationnaire, qu'est-ce que le Struthof ?
Le Struthof était un camp de représailles, plutôt, devrait-on dire, d'extermination. C'est un camp qui a été construit par les Allemands sur la face nord du rocher Louise. Au début, il était construit pour environ 1500 détenus. Mais à la fin, nous nous trouvions plus de 7000 dans des baraquements. Vous voyez tout de suite que le camp était bien trop petit pour les 7000 détenus. Et à ce moment, nous couchions à 2, 3 ou 4 personnes par lit. La nourriture également s'en ressentait.
Premièrement, il n'y avait pas d'eau. L'eau était donnée une demi-heure par jour. Et les détenus étaient obligés de travailler toute la journée ou à porter des pierres ou à monter les escaliers du Struthof, qui sont des escaliers très abrupts. Et lorsqu'un homme les avait montés 10 fois ou 15 fois de suite, il était vraiment exténué. Vous savez, la nourriture distribuée au camp du Struthof, c'est à peu près la même que celle de tous les camps. Et le matin, au réveil, à 4 heures, nous avions droit à un quart d'eau chaude. À midi, nous avions une soupe, enfin si l'on peut appeler cela une soupe, et un litre d'eau chaude dans lequel nageait quelques rutabaga, et le soir, un morceau de pain de 50 grammes.
Roland Tessandier, en 1955, pour vous le présenter, je vais dire simplement Force française combattante, déportée internée de la résistance et Force française de l'intérieur. Témoignage sur ce qu'est ce camp avec, il utilise l'expression de camp d'extermination. On peut juste revenir sur le vocabulaire à utiliser pour désigner ce camp, Neisweiler Struthof, camp de concentration, camp d'extermination, centre de mise à mort. Quel vocabulaire utiliser?
Alors, Neisweiler, c'est un camp de concentration et c'est aussi, du coup, un camp de travail. Donc, l'objectif, c'est d'y enfermer des détenus, surtout politiques. À Neisweiler, il y a uniquement des hommes, il n'y a pas de femmes dans le camp Neisweiler. Et on parle vraiment de camp de concentration. Il y a plusieurs niveaux de sécurité dans les camps de concentration. Celui de Neisweiler, il est de niveau 2. Donc, ça veut dire qu'on veut utiliser les déportés pour du travail, mais pas les faire mourir tout de suite, en fait.
Oui, parce que la mort, c'est toujours la finalité, mais à plus ou moins long terme.
Oui, c'est ça. Et donc ce camp, il a totalement un objectif économique et de faire travailler les déportés.
Ils sont combien dans ce camp ?
Alors ça dépend vraiment des moments. C'est ce qu'il dit en partie dans le témoignage. Normalement, c'est plutôt prévu pour qu'il soit 3000, donc à peu près 150 à 200 par baraque. Donc il y avait une quinzaine de baraques dans le camp. Mais à l'été 44, ils sont plutôt 6000. Donc on double les effectifs dans les baraques. C'est ce qu'il dit également dans le témoignage, c'est qu'ils sont beaucoup par baraque et qu'ils sont obligés de se partager les lits. Donc les conditions de vie et comment les déportés ont vécu dans le camp, selon qu'ils soient arrivés en 1941 ou en 1943, ils n'ont pas du tout vécu la même chose, les mêmes conditions.
Et sur l'ensemble de la période qui nous intéresse, la Seconde Guerre mondiale, on arrive à estimer le nombre de personnes qui sont passées dans ce camp. On est sur plusieurs dizaines de milliers.
On est sur 52 000 au total avec les annexes.
Oui, avec les annexes, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Juliette Branger, vous êtes archéologue. Le regard de l'archéologue sur un camp de concentration, déjà ça a une histoire. Hein. À quel moment a-t-on commencé à fouiller ces camps ?
Oui, l'archéologie des camps, ça a une histoire, c'est une discipline qui est très très récente en fait. Ça fait seulement 10-15 ans qu'on fait de l'archéologie dans différents types de camps en France. En Allemagne et en Pologne, ça fait plutôt 30 ans que les archéologues sont intéressés à ce sujet. Ça, c'est une histoire de l'historiographie, de la manière dont on voit l'archéologie dans les différents pays. Mais la première opération qu'on considère un peu comme la première opération archéologique dans un camp, c'est en 1967 à Auschwitz, où il y a eu une petite opération de fouille qui a été menée par des archéologues de la fac de Cracovie, et qui en fait était plutôt un projet artistique qu'archéologique, où un réalisateur qui s'appelle Brozowski a mené, il voulait faire un petit film d'archéologue en train de fouiller dans un camp, donc avec un but un peu mémoriel et artistique. Il a fait venir des archéologues, ils ont fouillé de manière tout à fait normale avec des méthodes d'archéologue. Il a fait son film de 15 minutes qui s'appelle Archéologia. Donc il y a eu plusieurs prix dans les années 60-70. Par contre, le travail des archéologues, il s'est arrêté là. Ils ont juste fouillé, ça les intéressait pas encore totalement. Ils ont mis plus de 16 000 objets dans des cartons qui ont disparu dans les méandres de la fac de Cracovie et qui sont seulement réapparus en 2016 sans jamais avoir été étudiés. Donc le travail là, d'étude des objets, il se fait seulement depuis 2016. Et donc ça, on considère un peu que c'est la première opération d'archéologue dans un camp.
Oui, parce que l'archéologie contemporaine existe et elle est vive et elle est extrêmement intéressante. Hein. L'idée d'associer l'archéologie au temps lointain ou à l'Antiquité, c'est dépassé. Hein. Ça, c'est à mettre vraiment au lointain dans le placard, parce que l'archéologie aujourd'hui, elle s'intéresse à toutes les périodes et dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, archéologie en France, archéologie des camps de concentration, archéologie aussi des camps de prisonniers, mais les prisonniers allemands. Après la défaite nazie.
Donc le camp 112 avait une capacité en gros pour 8000 prisonniers. Il était occupé à 4500 prisonniers. Dans les deux rapports qu'on a, disent qu'ils sont tous allemands. Dans le camp qui était un peu plus bas, il y avait des Autrichiens.
Et on a trouvé des photos avec des différents styles de construction de tous les logements ici. C'est l'archéologie confirmait que c'était une construction un peu bizarre, un peu comme une camp de réfugiés. Cette structure-là, c'est un four. Peut-être une part d'une cuisine. Pour nous, c'est un peu c'est une surprise parce que la forme de la structure qu'on a trouvée, c'est très similaire de les structures médiévales ou des structures de l'âge de feu.
Des fouilles au camp de prisonniers de la Glacerie, nous nous trouvons en Normandie ici, ce sont donc des prisonniers allemands avec des fouilles qui ont été réalisées dans un premier temps par l'INRAP, hein, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, et puis après, et on l'entend ne serait-ce qu'à l'accent, ça vient d'Oxford, hein, je crois, après cette archéologie-là. Intéressant, hein, cette démarche. Donc en France, là on est au début des années 2000, les camps français, ou en tout cas le camp français, celui de Struthof, est fouillé à partir de quand ?
Alors, ça a commencé seulement en 2018.
Donc, on est après ces fouilles normandes.
Oui, oui, on est bien plus tard. Il y a eu plusieurs opérations, un peu comme cette fouille normande, dans des camps de prisonniers de guerre où on a enfermé les soldats allemands à la fin de la guerre. Il y a aussi la fouille de Miramas dans le sud de la France, Stenay dans la Meuse. Donc, il y a eu quand même pas mal de fouilles menées souvent par l'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive. Mais au Struthof, c'était pas venu tout de suite. Il y a eu pourtant des travaux de construction en lien avec la construction du musée qui a été inauguré en 2005. Donc on a eu des travaux dans le camp qui ont potentiellement détruit des vestiges, mais les archéologues ne sont pas intervenus. Et la première opération en 2018, elle est intervenue dans le cadre de travaux et un peu tard parce que finalement on a déjà perdu une partie des vestiges.
Il y a une spécificité de l'archéologie, je pense pas, hein, c'est une méthode, c'est la science, donc qu'il s'agisse d'un camp de prisonniers allemands en Normandie, ou Miramas, c'est du côté de Marseille, ou un camp de concentration, la méthode demeure la même.
Oui, les méthodes restent exactement les mêmes, et même on a aussi les mêmes méthodes que pour les périodes plus anciennes finalement. Fouiller un site gallo-romain, un site médiéval, ou un camp de concentration, on va retrouver les mêmes méthodes des archéologues. Ce qui va être un peu différent pour les périodes plus récentes, et notamment pour les camps, c'est le lien qu'on va faire non-stop avec les archives, en fait. On va faire un aller-retour constant entre qu'est-ce qu'on a dans les archives par rapport à ce camp de concentration et qu'est-ce que nous, on voit sur le terrain, chose qu'on peut moins faire pour les périodes plus anciennes.
Et les témoignages ?
Oui, et les témoignages. Ça, c'est aussi une des particularités, c'est que finalement, on fouille quelque chose où il y a encore des témoins qui peuvent en parler, donc potentiellement parler des choses qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train de fouiller. C'est vraiment ça qui est finalement particulier pour l'archéologie des camps.
Tous les chantiers de fouilles attirent les gens, parce que qu'il s'agisse de fouilles médiévales, antiques, peu importe, les gens du coin viennent parce qu'on veut savoir, on veut voir ce qui se trouve sous nos pieds, nous fouillons, c'est votre histoire, hein, c'est le slogan de l'INRAP. Dans le cas d'une fouille d'un camp de concentration, est-ce que vous avez, vous, par votre expérience, des contacts, des discussions avec des gens qui ont pu vivre cette histoire-là ?
Oui, ben, en fait, on fait des portes ouvertes sur le chantier parce que justement, l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire et d'attirer potentiellement des témoins, des personnes qui auraient vécu ces épisodes. Et en faisant une porte ouverte l'année dernière sur le chantier de la carrière qu'on est en train de fouiller, il y a une personne âgée qui est arrivée, qui a plus de 80 ans, plutôt 90, je crois qu'il est né en 33 ou en 34, et qui est venu nous dire que lui, quand il était petit, pendant la guerre, il montait jusqu'à la carrière du camp pour ramener le déjeuner à son frère, qui était un travailleur civil, qui travaillait dans la carrière aux côtés des déportés. Donc, il était petit, il se souvient pas de grand-chose, mais il se souvient quand même de monter au camp, de devoir passer le portail pour rentrer dans la carrière, de devoir passer la garde, et de devoir ramener, du coup, ce repas à son frère. Donc, c'est vrai que là, le chantier, ça permet d'avoir des échanges avec des personnes qui savent des choses et l'ont potentiellement jamais dit, n'ont jamais transmis. Donc ça provoque un petit peu des échanges avec des témoins.
Oui, c'est ça, hein, qui est très important. C'est de croiser toutes les sources d'informations, mais c'est la démarche de la recherche avec la volonté d'être au plus près du vécu, surtout dans cet univers concentrationnaire, celui des non-dits. Le témoignage est très important.
Au mois de mars 1942, les internés eurent à travailler dans la carrière. À ce moment-là, je dirigeais les travaux dans celle-ci. Au début, nous travaillions avec 100, 200, 300 internés, et plus tard, en 1943, avec 1500 internés. Le régime de travail était fixé à 10 heures par jour. Aucun rendement n'était prescrit, mais les SS et les capots surveillaient le travail et excitaient les ouvriers. Les détenus furent battus s'ils ne travaillaient pas assez. Il arrivait que les internés, ainsi battus, durent être transportés à l'infirmerie. Le plus souvent, les battus n'avaient même pas le courage de parler de peur d'être battus à nouveau, même quand leurs blessures exigeaient des soins. Il fallait continuer le travail, aussi bien par la pluie battante que sous le soleil brûlant. Par contre, il était permis de l'interrompre par temps de brouillard. Blomberg, quoiqu'étant lui-même colonel SS, était plutôt en mauvais rapport avec les SS du camp. Lui ne voulait pas que les internés soient battus de cette façon, ce qui me permit souvent d'intervenir pour eux.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Raphaël Laloum, qui nous lisait ce témoignage de Joseph Stadler, un travailleur civil dans la carrière. C'est un témoignage qui a été donné au moment du procès de Metz en 1958 contre les gardiens de ce camp de Natzweiler. Avec ici quelque chose qui peut nous étonner, hein, la présence de civils aux côtés des déportés.
Ça fait partie des choses qu'on n'évoquait jamais dans les publications sur le camp de Natzweiler, la présence de ces civils à côté des déportés en train de travailler dans la carrière. Et c'est une des problématiques qu'on a développées suite au chantier archéologique dans la carrière et suite aussi à mes travaux de thèse. Et en fait, on n'a pas de liste précise de ces civils qui travaillent à l'intérieur de la carrière. On sait qu'ils étaient presque 200 au début de l'installation de la carrière, donc avant que les déportés arrivent. Donc on est au début de l'année 1941. Puis en mars 1942, quand les déportés vont arriver et vont commencer à travailler dans la carrière, ils vont chuter plutôt à 80 civils. Mais ça veut dire qu'on a toujours un potentiel de 80 personnes qui, tous les jours, vont travailler aux côtés des déportés et donc potentiellement pouvoir parler avec eux, échanger de la nourriture, des lettres, des objets avec eux, échanger des informations. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pas soupçonné du tout jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait un côté tabou, parce qu'en fait, ces civils, ils viennent des villages autour du camp, donc ils viennent d'une dizaine de communes différentes qui sont vraiment au maximum à 10 km du camp. Et il y avait un côté tabou après-guerre où on ne voulait pas trop raconter qu'on avait travaillé dans ce camp parce qu'on avait peur de se faire accuser potentiellement de collaboration. Et donc ces personnes, elles ont été au procès de Metz pour témoigner contre les gardiens, mais après elles n'ont pas écrit de livre, elles n'ont pas témoigné auprès de leur famille. Elles se sont tues et elles sont décédées dans les années souvent 80 parce que c'est des personnes qui sont nées vers 1890. Donc on a perdu leur voix, leur témoignage. Et là maintenant, depuis novembre de 2024, on tente de retrouver leurs descendants. On a fait un appel aux descendants avec le mémorial de Natzweiler, le CERD, et on essaie de retrouver leur famille pour voir si chez eux ils ont des objets, des photos en lien avec ces civils. Et ça a fonctionné en partie, notamment donc c'était le témoignage de Joseph Stadler, et j'ai rencontré son petit-fils il y a quelques mois et qui a conservé des objets qui ont été donnés par des déportés à ce civil en cadeau, en remerciement, et notamment une boîte en aluminium, avec les portraits de ses deux filles au civil, et cette boîte qui a été faite par deux déportés. Et dans un carnet, il a noté des noms de déportés qu'il a croisés dans son travail à la carrière, et notamment deux noms de déportés à côté où il a écrit « a fait la boîte » et « a gravé la boîte ». Donc là, on voit que ces civils, ils se sont tués, ils n'ont rien dit, mais en fait, ils avaient des échanges avec les déportés, ils les ont potentiellement aidés, ils ont échangé des objets, des informations. Et ce même civil, après-guerre, il va rester ami avec un des déportés dont il avait noté le nom dans le carnet, qui s'appelle Bernson Peter, donc qui est un Allemand témoin de Jéhovah, déporté parce qu'il est témoin de Jéhovah. Et on a des photos de lui après-guerre, jusque dans les années 80, où le déporté va revenir tous les ans à Grendelbruch, à côté de Natzweiler, et ils vont rester amis jusqu'à leur décès à tous les deux.
Voilà, donc l'appel, vous pouvez le relancer, ça fonctionne bien dans le cours de l'histoire, hein, les appels. Mais non, mais par effet de génération, ces archives, ces documents sont encore dans les greniers souvent. Donc voilà, ne pas hésiter si l'on a des choses à donner pour enrichir la connaissance. Ce camp est un camp complexe parce que, on l'a bien dit, hein, il y a des détenus de droit commun allemands, des résistants français, des témoins de Jéhovah, des homosexuels, des tziganes, quelques juifs aussi, et les femmes aussi, parce qu'il y a quelques femmes. Et là aussi, il y a tout un travail à écrire autour de ces femmes qui ont été détenues dans ces camps, celui de Struthof.
En fait, au Struthof, elles n'ont pas vraiment été détenues, mais il y a eu l'assassinat de 86 juifs en 1943 dans le cadre d'expérimentations médicales qui ont été menées par la fac de Strasbourg et les professeurs de médecine de la fac de Strasbourg. Donc parmi ces juifs qui ont été exécutés dans la chambre à gaz du camp, il y avait des femmes. Et il y a eu d'autres exécutions aussi, notamment de femmes britanniques des services spéciaux du SOE qui ont été exécutées dans le camp. Mais en fait, elles n'ont jamais été enregistrées, elles n'ont jamais eu de numéro de matricule dans le camp. À chaque fois, elles sont ramenées pour être exécutées.
Oui, c'est ça, c'est le lieu d'exécution. Oui. Et c'est vrai qu'on trouve ces noms que l'on croise, André et Borel, résistante et agente secrète française, exécutée. Lieu d'exécution, ce camp, et vous venez de l'évoquer, Juliette Branger, nous avons avec ce camp du Struthof un élément qui ne peut que provoquer l'effroi hein, quand on y pense, ce sont toutes ces expérimentations médicales.
Il a fait deux séries principales d'expérimentations sur l'homme. Enfin bon, la première est une vraie expérimentation, si j'ose dire, c'est-à-dire l'utilisation des cobayes humains pour expérimenter, trouver un antidote sur l'hypérite, donc ce gaz de combat qui avait été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, que l'on appelait gaz moutarde. Bon, expérimentation assez horrible parce que en fait, ce n'était pas de l'hypérite par inhalation, mais quasiment par injection. Deuxième série d'interventions de Hirt à Natzweiler, c'est la constitution d'une collection anatomique, puisque bon, les nazis étaient convaincus qu'il existait une race judéo-bolchévique. Donc à partir de ce moment-là, il fallait trouver, bien évidemment, des spécimens humains qui puissent correspondre aux caractéristiques de cette race. Donc une recherche a été lancée en liaison avec le camp de Birkenau. On avait déjà repéré un certain nombre de gens là-bas et qui sont amenés donc directement à Natzweiler, qui sont mis à l'écart. Et ensuite, en 4 vagues successives, de nuit, ces femmes et ces hommes ont été amenés à la chambre à gaz du camp et ont été progressivement gazés dans une chambre à gaz qui existait et qui avait été aménagée d'ailleurs à cet usage. Donc ces 4 gazages nocturnes se sont à chaque fois terminés de la même façon. Les corps ont été mis dans des camions et ces camions ont livré, si j'ose dire, leurs marchandises, c'est-à-dire ces cadavres, directement à l'Institut d'anatomie, à la faculté de médecine de Strasbourg, où ils ont été entreposés dans des cuves.
Robert Stegmann, historien, qui s'exprimait ici à propos de ces expérimentations en lien entre le camp de Natzweiler et puis le camp de Struthof et puis l'université de Strasbourg. C'est une histoire très contemporaine hein, avec la découverte récente de ces corps. C'est ici un vocabulaire, ce champ lexical monstrueux qui fait de ce camp un élément du système de mise à mort. On parle de four crématoire, on parle de chambre à gaz, parce qu'il y a du gazage. C'est-à-dire que dans le camp qui nous intéresse, on parle beaucoup de la carrière, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce que les nazis attendent d'un camp d'extermination.
Oui, il y a un four crématoire qui sert donc à brûler l'ensemble des corps des déportés qui sont décédés. Donc la plupart de maladies, de froid, parce qu'on est en moyenne montagne. Donc les conditions climatiques, elles sont un peu particulières. De maladies, il y a des grosses épidémies de typhus en 1944. On retrouve cette chambre à gaz qui est installée au niveau de l'auberge et de la ferme, donc de ces installations qui étaient déjà là avant-guerre. La chambre à gaz, elle va être aménagée dans une ancienne salle des fêtes qui était aussi la salle qui servait à stocker les skis avant-guerre. Et ce qu'on retrouve aussi en lien avec ces conditions de vie des déportés, c'est tout l'aspect nourriture aussi qui est important et qu'on a retrouvé déjà avant dans les témoignages qu'on a écoutés. Qui est un des thèmes importants, comme la maladie, comme le froid, comme les baraques. Et la nourriture, on peut aussi l'aborder avec l'archéologie parce que on a retrouvé en fouillant juste à côté du camp, donc à proximité des baraques où vivaient les déportés, ce qu'on appelle des bouteillons, qui sont en fait des grosses marmites métalliques de stockage, comme des grandes thermos militaires, et qui servaient à être amenées dans la cuisine où travaillaient les déportés. On versait à l'intérieur la soupe, dont un des déportés qu'on a entendu juste avant dans un de ses témoignages parlait de cette soupe très claire dans laquelle flottaient quelques morceaux de légumes. Donc celle-ci est versée dans les bouteillons et après ces bouteillons sont redistribués par baraque pour nourrir les déportés et être versés dans leur gamelle. Donc on a retrouvé 5-6 bouteillons en fouillant à proximité du camp. Ils avaient été jetés sûrement quand le camp a été vidé avant de devenir une prison française. Et ça, ça montre le quotidien des déportés et c'est typiquement le genre d'objet qui permet de mettre en avant une problématique, donc la nourriture, comment fonctionne la vie quotidienne des déportés et qui pourra aussi potentiellement être mis en avant dans un changement muséographique peut-être dans l'espace muséographique.
Quels espaces ont été fouillés sur ce camp ?
Alors, on a fouillé à plusieurs endroits, majoritairement dans la carrière depuis 2020. Donc là, espace de travail, d'abord d'extraction de granit, puis de démontage de moteurs d'avion pour une entreprise allemande, Junkers. Donc là, plutôt sur des problématiques industrielles et de travail forcé. Mes collègues d'archéologie Alsace ont fouillé en 2018, plus à proximité du camp, donc au niveau d'une baraque administrative de la SS, au niveau de l'entrée du camp, de la route qu'avaient aménagée les déportés, on en parlait au début, donc cette route en granit rose, mes collègues ont fouillé une portion. Et également les abords de la chambre à gaz, donc pas l'intérieur, mais les abords extérieurs du bâtiment, où là, mes collègues ont pu étudier les aménagements plutôt d'avant-guerre, on va dire la terrasse du bâtiment qui servait de salle des fêtes et d'espace de location pour les skis.
Qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, c'est là qu'intervient un peu l'aspect compliqué de ce camp, le fait qu'il ait plein de phases, qu'il ait déjà une vie avant-guerre, qu'il y ait le camp de concentration, puis qu'il y ait l'espace pénitentiaire jusqu'à 1949 quand même. Et donc, dans les objets qu'on va trouver, on va avoir un mélange d'un peu toutes les périodes. Et là, on va avoir un aspect compliqué pour essayer de dater ces objets. Est-ce que c'est des objets du camp de concentration ? Est-ce que c'est des objets du camp d'internement administratif de 44-45 ou du centre pénitentiaire de 45-49 ? Et ce qu'on va trouver, ça va dépendre des zones. Quand on est dans la carrière, ça va plutôt être des objets en lien soit avec la construction des bâtiments, donc des matériaux de construction, beaucoup de clous, d'éléments d'attache de charpente, des crampons de charpente, des baraques en bois. Aussi des outils, donc on va trouver des limes, des petites scies à métaux, des choses en lien avec le travail, parce qu'on est dans un espace pas de vie, mais plutôt de travail forcé. Et plus on se rapproche du camp, si on est plutôt dans les espaces à proximité des lieux de vie des déportés, là potentiellement on va retrouver des objets en lien avec le quotidien, donc comme ces bouteillons que j'évoquais juste avant.
Pour... C'est des gamelles en fait, on les voit bien, c'est avec le couvercle, là c'est en métal, un peu aplati, on met la soupe dedans.
C'est ça, c'est des grosses gamelles en fait de stockage. On peut retrouver des boutons, des petits objets, des gamelles, des choses en lien plus avec le quotidien. Ça va dépendre dans quelle zone on fouille.
Juliette Branger, vous avez particulièrement travaillé à la place des camps dans l'économie de guerre allemande. Ce camp du Struthof a été choisi pour le granit rose, la carrière juste à côté qui, dans un délire nazi, allait servir pour ces grandes constructions. Puis la guerre avançant, l'urgence n'est plus tellement le granit rose. Vous l'avez évoqué, il y a une histoire de moteur d'avion ?
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, au démarrage, l'objectif, c'est d'extraire ce granit rose. Et oui, le conflit avance et produire des blocs de granit pour faire des monuments en Allemagne, c'est plus tellement la priorité. Et on va demander à la DEST, qui gère la carrière, de changer sa production économique et de s'adapter. Et ici, pour le camp de Nassau-Eller, elle va se mettre en lien avec l'entreprise Junkers, qui est une entreprise de fabrication d'avions, qui est installée notamment à Strasbourg. Et elle va faire venir des moteurs d'avions qui ne fonctionnaient plus, qui vont venir depuis Strasbourg en train, être déchargés à Roto, donc en bas dans la vallée, puis monter en camion jusque dans la carrière. Et là, les déportés, on va leur demander de démonter ces moteurs d'avion pour pouvoir trier entre les pièces qu'on pourrait recycler pour faire de nouveaux moteurs et les pièces dont on ne peut plus rien faire du tout. Donc ils vont complètement participer, finalement, les déportés, à l'économie de guerre et à la fabrication, enfin plutôt au démontage, d'éléments aéronautiques.
Avec ici l'archéologie qui donne encore des éléments de compréhension de ce qui se passait.
Oui, parce qu'on fouille dans cette carrière depuis 2020, et quand on est arrivé en 2020, il faut s'imaginer que c'est pas du tout un espace mémorial, la carrière. Autant le reste du camp, l'espace de la chambre à gaz, ou la partie où il y a les baraques des déportés, on a un parcours mémoriel, ça se visite. Autant la carrière, on est au milieu de la forêt communale, en fait, on est au milieu des sapins, et il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Donc quand on arrivait en 2020, on voyait qu'il y avait des restes de bâtiments en béton, mais tout était recouvert par la végétation. Et il y a eu d'abord tout un travail un peu de débroussaillage pour essayer de voir qu'est-ce qui reste dans cette carrière, parce que finalement on ne savait même pas ce qui restait comme bâtiment. Et ça a permis de voir qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait de quoi fouiller, et de commencer à fouiller en 2021. Cette fouille, elle permet déjà de faire un plan des espaces de la carrière, parce qu'on n'avait pas de plan. Aussi surprenant que cela puisse être, on n'a pas de plan de cette carrière, ou des plans très vagues, avec juste des rectangles qui montrent les bâtiments, mais on n'a pas de plan précis, on ne sait pas comment sont divisés les bâtiments à l'intérieur, on ne sait pas exactement à quoi sert chaque bâtiment. Et donc là, l'archéologie, ça permet de découvrir les dalles en béton, et de voir des empreintes au sol, de machines, de murs, de parois, et de refaire, de restituer les plans de bâtiments qu'on n'a pas dans les archives. Et du coup, cette fouille, elle permet à la fois d'étudier la partie extraction du granit et après la partie démontage de moteurs d'avion, où on avait toute une série de bâtiments qu'on appelle des halles, qui sont des sortes d'ateliers, et qui avaient été construites en 1943 pour que les déportés démontent des moteurs d'avion à l'intérieur.
Une fois que les déportés ont fait le travail dans la carrière, ils rentrent dans les baraquements, donc dans le camp, où là, c'est une toute autre lecture, c'est la vie quotidienne, et puis c'est la répression. Toutes ces traces-là sont encore présentes dans le camp, parce que, il faut le dire, et on l'a évoqué, les baraques sont en bois, donc très vite, une fois que le camp est abandonné, et on l'entend bien, c'est en 1949.
Oui, 1949.
Voilà, tout s'est dégradé, donc il ne reste plus grand-chose. Il reste quoi ? Les bases de ces baraquements ?
Actuellement, quand on visite le camp, on voit 4 baraques. Donc on voit le crématoire, la baraque bunker, qui est en fait la baraque cellulaire pour isoler les déportés qui enfreignent le règlement du camp. La baraque cuisine, qui servait à la préparation des repas pour l'ensemble des déportés. Et une baraque qui est... une baraque qui sert de musée actuellement, et en fait qui est une copie de baraque, parce que l'original a brûlé en 1976 suite à un attentat d'un groupe autonomiste alsacien qui s'appelle les Loups Noirs. Donc en fait, finalement, quand on visite cet espace, il reste 3 baraques originales, et toutes les autres, il y a encore leurs dalles en béton, mais recouvertes par des graviers, et les baraques en bois, elles ont été... démontés, vendus aux enchères dans les années 1950, brûlés aussi en partie dans une cérémonie solennelle en 1954. Donc en fait, finalement, de ce camp, il reste quand même peu de vestiges, en tout cas peu de vestiges visibles en élévation, peu de baraques. Il reste beaucoup de choses dans le sol à fouiller, et donc il y a quoi faire encore en archéologie.
Oui, c'est l'importance de l'archéologie. L'archéologie et l'histoire qui avancent main dans la main, bien sûr. Et l'histoire... et l'archéologie, donc, qui avance avec la mémoire.
Maintenant, c'est une chanson de Cigane qui va être chantée en hommage aux 4 victimes roms qui sont décédées ici des suites des expériences. Je vous cite ces noms parce qu'on les a peu entendus. Adalbert Eckstein, Andreas Odosi, Zirko Rebstock, Joseph Reinhardt.
Évocation des Tziganes, hommage aux victimes du Struthof en 2020. C'était sur France 3 et on vient d'entendre chanter Tosca Helmstetter. Ici, Juliette Branger, au moment de faire votre travail, vous l'avez bien dit, un archéologue, que ce soit un site antique, médiéval, quel qu'il soit, c'est la même démarche, c'est une discipline scientifique. Et puis il y a toutes ces mémoires plurielles, qui se croisent dans le camp. Et là aussi, l'archéologie, mais l'histoire, enfin, l'avancée du savoir, ça permet d'enrichir ces différentes mémoires, qui vont de pair, hein, mais qui ont toute leur identité.
Oui, parce que quand on reprend un peu les témoignages qu'on utilise en fait pour parler de Nazo LR, souvent ce qu'on utilise c'est les témoignages des déportés français, et donc c'est de ces déportés Nartou Nebel qui sont arrivés en 1943. Et quand on regarde lui statistiquement, c'est tout le temps ces témoignages à eux en fait qu'on utilise. Et donc c'est une partie de l'histoire du camp qu'on utilise et qu'on met en avant. Et en fait ça c'est en lien avec l'historiographie, comment on a fait l'histoire et la mémoire du camp de Nazo LR. L'espace mémoriel et muséographie qui s'appelle CERD, Centre Européen du Résistant Déporté. Et ça pareil, ça montre qu'on met en avant une partie de la mémoire parce qu'on met en avant le mot résistant. Donc plutôt en fait ces Français et qui sont arrivés plutôt en 1943. Et on oublie une partie de la mémoire de ce camp, parce qu'en fait, les Polonais et les Soviétiques qui sont arrivés en 1941, ou les droits communs allemands, eux, ils sont pas résistants. Les droits communs, ils sont là parce qu'ils étaient déjà en prison avant. Les Soviétiques et les Polonais, ils sont souvent classés dans politique, mais en fait, c'est parce qu'ils sont Soviétiques ou Polonais qu'ils sont là. Ils sont pas spécialement résistants. Enfin, ça va dépendre de qui, mais on va dire qu'ils sont surtout là à cause de leur nationalité. Et donc, dans la construction de la mémoire du camp Nazo LR, on a beaucoup mis en avant ces Français, oui, qui sont venus au camp Nazo LR, qui ont été enfermés. Mais on a oublié, du coup, une partie de la mémoire, en partie aussi des Tziganes, dont on a parlé juste avant avec l'extrait de musique.
Bah, je vais illustrer vos propos avec une archive. Juliette Branger, vous dites, oui, pendant longtemps, on ne voyait pas ces différentes mémoires possibles et on ne voyait que les Français. Nous sommes là en 1960, au moment où le général de Gaulle, d'ailleurs, inaugure ce centre du Struthof, où il en fait un lieu de mémoire pour le déporté inconnu, avec ici, vous allez voir, l'évocation effectivement d'une histoire très française.
Struthof. Dans ce bagne nazi où le four crématoire est resté debout, passèrent pendant les années d'occupation des milliers et des milliers de Français déportés. Quand bien n'en sont parvenus, affamés, torturés, suppliciés. C'est à leur souvenir qu'a été érigée cette flamme de pierre haute de 41 mètres que le général de Gaulle a voulu inaugurer lui-même. Au pied de ce mémorial, on viendra désormais s'incliner devant la tombe du déporté inconnu, autour duquel, garde d'honneur immobile et tragique, s'alignent les tombes de 900 déportés ramenés de tous les camps de la mort. Avec Douaumont, avec le Mont Valérien, Struthof est devenu aujourd'hui l'un des plus hauts lieux du sacrifice.
En 1970, ces actualités françaises, et on l'entend bien, hein, il y a une relation qui est faite entre Struthof, Douaumont, c'est la Première Guerre mondiale, le Mont Valérien, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire très française qui, par l'avancée de la recherche, nous montre que de toute façon, ces histoires se croisent et ce sont des histoires internationales. Et vous d'ailleurs, dans votre démarche, Juliette Branger, vous êtes sur une histoire comparée, au sens où vous comparez deux camps, ce camp qui est en Alsace, le camp de Neizweiler Struthof. Alors Neizweiler, c'est le nom allemand, Neizweiler, c'est le nom repris par les Alsaciens aujourd'hui. Donc le nom allemand, on l'utilise parce que nous parlons de ces années d'occupation. Et puis le camp de Flossenbürg. Alors est-ce qu'il y a des comparaisons évidentes? Est-ce qu'il y a un modèle pour les nazis pour construire un camp en moyenne montagne?
Oui, architecturalement, les deux camps se ressemblent énormément. En fait, on va avoir le même système d'installation de terrasses pour pouvoir installer des baraques. Ils vont avoir à peu près la même taille, le même modèle de baraque. Ils sont vraiment très très semblables architecturalement parlant parce qu'on est dans le même milieu en moyenne montagne et qu'on va avoir les mêmes moyens techniques. Et ils ont tous les deux une carrière de granit, donc on va avoir aussi à peu près les mêmes installations. Les seules différences qu'on va pouvoir voir, c'est qu'à Nazo LR, on va tout faire avec des baraques en bois, donc des choses qui ne sont pas faites pour durer dans le temps, alors qu'à Flossenbürg, les installations dans la carrière, ils vont les faire directement en granit extrait de la carrière. Donc là, on va avoir une petite différence avec des monuments, enfin, avec des bâtiments techniques, comme la forge ou les espaces de stockage ou les ateliers qui vont être construits en granit directement. Mais sinon, tout se ressemble.
Tout se ressemble. Et je me permets une question qui est peut-être un peu cynique, mais parmi ceux qui travaillent dans le camp, bah, y a aussi les gardiens. Il y a aussi les nazis. Est-ce que là, il y a des traces particulières que l'archéologie peut nous révéler ?
C'est toujours compliqué de voir des identités ou de voir des personnes, en fait, en fouillant. Jusqu'à maintenant, en tout cas, en fouillant en Altzweiler, on n'a pas trouvé d'objets qu'on pouvait relier à des gardiens. Et déjà, des objets qu'on pouvait relier à des déportés, ça a été compliqué jusqu'à maintenant. Il y a juste eu la découverte cet été d'une petite plaque avec un matricule de déporté soviétique dans la fouille de la carrière. Petite plaque en aluminium avec écrit 15-16 dessus, qui correspond à un déporté qui s'appelle Ivan Gorgola, et donc qui a été déporté en 1942, qui vient de la région de Zaporizhzhia en Ukraine, et qui a été déporté pour refus de travailler. Et donc là, lui nous permet du coup d'aborder toujours cette mémoire des soviétiques dont on parlait tout à l'heure, qui a été un peu oubliée. Par contre, des exemples d'objets qu'on pourrait relier aux gardiens, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça vient des zones où on a fouillé. On n'a pas assez fouillé dans les espaces administratifs, dans les espaces de baraques de la SS. Si dans les années à venir, on fouille dans ces espaces, c'est possible qu'on trouve des plaques militaires, qu'on trouve des boutons, des choses en lien avec les gardiens.
Et puis, dans ce qui concerne, on l'a évoqué, il y a un four crématoire, tout ce qui peut rester d'aspect complètement mortuaire de ces cendres, de ces corps, là aussi, des fouilles sont possibles.
En fait, les cendres, elles ont été soit mises dans des urnes pour les déportés de nationalité allemande, soit jetées dans ce qu'on appelle la fosse aux cendres, qui est en fait la fosse de gestion des eaux usées pour l'ensemble du camp de concentration. Donc en fait, oui, qui est une fosse de décantation. Et dans cette fosse aux cendres, actuellement, c'est un espace mémoriel dans lequel on plante des fleurs, où il y a des plaques. C'est un espace de commémoration. Mais parfois, quand ils font les plantations de nouvelles plantes, ben ça peut arriver qu'il y ait des objets qui ressortent. Ça arrivait il y a quelques années, la découverte d'une plaque métallique avec le nom d'un aviateur anglais qui en fait n'a jamais été déporté au camp, mais son avion s'est crashé, il a été récupéré et il a été exécuté à Altzweiler et son corps a été brûlé dans le four et ses cendres rejetées dans la fosse aux cendres. Donc cette zone, on sait que c'est une zone dans laquelle il y a des restes de déportés, il y a des objets potentiellement, mais ça pose des questions d'éthique finalement, jusqu'où on fouille, quel endroit on fouille, est-ce qu'on peut se permettre de fouiller cette fosse aux cendres ou est-ce qu'on la laisse comme un espace mémoriel ? Parce qu'on sait que ça pourrait apporter des informations, qu'on pourrait potentiellement trouver des objets personnels de déportés. Mais ça pose la question, du coup, de remuer, de fouiller dans un endroit où il y a des restes humains.
Voilà, c'est vrai que c'est la question toujours très complexe. Hein. Les archéologues font grand soin de respecter au moment d'une fouille. Et là aussi, ça vaut pour toutes les périodes. Ce sont des ossements, ce sont des restes humains avec Juliette Branger. L'importance de la transmission. Parce que l'archéologie, elle a ça aussi de très fort, d'un petit objet. C'est vrai qu'un bouton, parfois, ça nous apprend pas grand-chose. Une lime, bon, bah oui, dans une carrière, il y a une lime, il y a des clous. Sauf que cette matérialité-là nous permet d'être au plus près de celles et ceux qui ont souffert.
Oui, une lime comme ça ou un morceau de clou tout seul, ça ne dit rien du tout. C'est l'ensemble des objets, c'est les milliers d'objets qu'on trouve en fouillant qui permettent de faire des statistiques et de voir un peu ce qui se passait à l'intérieur du camp ou de la carrière. Il y a 2 ans, on a trouvé un dépotoir avec des centaines et des centaines de pièces de moteurs d'avion. Les pièces prises individuellement, oui, c'est un morceau de filtre à huile de moteur, oui, c'est une plaque ou un rivet de moteur. Mais prises tout ensemble, ça permet de voir quelle partie du moteur ils ont démonté. Est-ce que c'est des pièces qui sont cassées? Est-ce que c'est des pièces qui sont complètes? Est-ce qu'on arrive à voir qu'est-ce qu'on fait les déportés en fait? Comment ils ont travaillé? Parce que comme on a peu de témoignages, on a peu d'explications de la manière dont ils ont travaillé, finalement là l'archéologie et le fait d'avoir les restes, les chutes de leur travail, ça permet de reconstituer ce qu'ils ont vécu au quotidien.
Les explications étaient très claires grâce à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Juliette Branger, d'être venue dans le cours de l'histoire nous parler de cette histoire, ce camp de Struthof, mais également aussi de l'avancée de la recherche sur cet objet d'étude très particulier, un camp de concentration. Merci beaucoup à vous.
Et merci à vous.
La fumée qui sort des crématoires obéit comme une autre aux lois physiques. Les particules s'assemblent et se dispersent au vent qui les pousse. Le seul pèlerinage serait de regarder parfois un ciel d'orage avec mélancolie. Tel est peut-être le vrai sens du mémorial du Struthof, conduire le regard vers le ciel.
Nous étions en 1960, c'est l'inauguration du monument au Struthof par le général de Gaulle, avec cette évocation ici de la mémoire à transmettre. Hein. Regardons vers le ciel. Et dans le cours de l'histoire, c'est toujours une joie de recevoir Valérie Hanin pour nous parler du dernier numéro de l'histoire. Bonjour Valérie.
Bonjour Xavier.
Et j'ai crimé Valérie pour qu'elle revienne, elle est revenue parce que c'est la guerre de Crimée. Racontez-nous.
Oui, alors c'est la guerre de Crimée, une guerre qui était un peu une affaire un peu poussiéreuse hein, dans nos vieux livres d'histoire. On s'y plongeait très rarement, on ne savait pas trop quoi en penser. La Crimée est revenue à l'ordre du jour avec l'annexion brutale en 2014 par Poutine et bien plus encore depuis 2022. On a pu mesurer à quel point cette péninsule dans la mer Noire est un enjeu stratégique de taille. Alors c'est pas nouveau, hein, Catherine II il y avait fait construire un port en eau profonde, Sébastopol, qu'elle a inauguré en grande pompe en 1783, parce qu'au fond c'était le seul accès pour la Russie aux mers chaudes, c'est-à-dire celles qui ne sont jamais gelées. En réalité, la guerre de Crimée, du coup, qui éclate en 1853-1856, trois ans de combats très violents, c'est d'abord une guerre russo-ottomane, car la Crimée, c'est une frontière d'empire. Depuis 1453, les Ottomans, les Turcs, tiennent tout le sud de la mer Noire, les détroits, et ils n'ont cessé de se battre pendant 400 ans. La guerre de Crimée, c'est la dixième guerre russo-ottomane. Sauf que cette fois-ci, les Européens s'en mêlent. Pour des raisons un peu compliquées, ou en tout cas un peu étranges, une affaire de clé d'église, de tutelle des lieux saints, les Turcs donnent la préférence aux Français, et les Russes, Nicolas Ier, n'accepte pas. C'est un grand moment de la poussée russe. Nicolas Ier qui traite l'Empire ottoman en repli, beaucoup moins arrogant qu'autrefois, d'hommes malades de l'Europe. Et cette poussée russe va faire réagir Napoléon III, le jeune empereur que vous connaissez bien.
Ouais, l'empereur ouais. On se côtoie dans les voilà. Archives.
Et Palmerston, bientôt premier ministre de la reine Victoria, pour à la fois contrer évidemment la poussée des Russes, mais aussi maintenir leur position au Moyen-Orient, bien entendu. Donc du coup, la guerre de Crimée, ça n'est pas seulement la guerre de Crimée, c'est une guerre sur plusieurs fronts. On se bat dans la Baltique, on se bat en mer Blanche, on se bat dans le Pacifique et bien sûr dans l'embouchure du Danube, dans le Caucase. Sauf que très vite, d'abord la défense russe est très forte dans ces points-là et deuxièmement, l'enjeu stratégique de la Crimée apparaît évident. En 1854, les Alliés débarquent en Crimée. Et c'est alors la bataille de l'Alma et bientôt octobre, les premières tranchées 1854, les premières tranchées devant Sébastopol, un terrible siège de 11 mois où Tolstoï, jeune officier de 26 ans, fait son apprentissage à la fois d'officier peut-être, mais aussi d'écrivain, hein, ces magnifiques récits de Sébastopol. Mais c'est le début d'un déchaînement de violence d'une guerre moderne qu'on a oublié mais qui est un véritable tournant dans l'histoire de la guerre. Pour l'armement, hein, les cuirassés, les mines, les obus, on va compter 700 000 morts. La mer Noire devient rouge, rougie par les combats quelquefois. Un désastre sanitaire invraisemblable. Trois quarts des morts sont des morts de maladie, hein, d'où évidemment un tournant aussi dans cette affaire, disons, médicale. Une crise humanitaire sans précédent, puisque les Tatars, des centaines de milliers de Tatars, vont, persécutés par les Russes, se réfugier vers le sud de la mer Noire et vers Istanbul, parce que c'est à ce moment-là que la Russie décide, on le voit bien aujourd'hui, de russifier, de blanchir, si on peut dire, de christianiser la Crimée. Donc les enjeux sont considérables, le tournant est important. Il nous en reste le zouave du pont de l'Alma.
Bien sûr, il nous en reste J'y suis, j'y reste de Mac Mahon.
Et J'y suis, j'y reste, et le fort de Malakoff et Sébastopol. Mais au fond, tout ça est bien plus que folklorique. C'est un véritable enjeu stratégique mondial.
Et ça se termine par le traité de Paris en 1856. Cette histoire qui nous permet de comprendre la suite. On dira jamais combien la guerre de Crimée est importante pour saisir l'évolution des combats. C'est le modèle des guerres à suivre. Merci vivement Valérie Anna. Merci. La guerre de Crimée, c'est le dossier du numéro de l'Histoire et nous étions dans le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Mayo Nguizhou. Le cours de l'Histoire, trouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.